Chapitre 12. Ce qu'il y a de plus pénible dans la captivité, on pourrait croire que c'est la privation de nourriture, les sévices, les humiliations, la soif insupportable peut-être, ou la dureté implacable d'une planche en bois qui vous broie les omoplates, qui vous aplatit l'arrière du crâne. Ou peut-être le moment où on se rend compte qu'on ne sait plus depuis combien de temps on a disparu. Les minutes, les heures, les jours ne sont plus qu'un magma informe. On perd ses repères. Est-ce que ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines? Est-ce qu'on est encore au printemps ou est-ce que c'est déjà l'été? Et Pâques? Est-ce que Pâques est passé sans vous? Le déjeuner familial organisé tous les ans chez votre mère? Est-ce que votre frère a mangé votre lapin au chocolat? On essaye de se raccrocher à ces pensées parce qu'elles nous relient à un monde plus vaste, à des morceaux de réalité qui remontent à l'époque où on était encore une vraie personne, avec une vraie vie. Mais la vérité, c'est qu'il est difficile de s'en souvenir. Alors fatalement, on lâche prise. On pense de moins en moins à la maison, à la personne qu'on a été et qu'on ne sera plus jamais. On se contente d'exister. On s'ennuie. Et voilà ce qui devient la pire torture. Pas de discussion entre amis ni de conversation polie. Nulle part où aller. Personne à voir. Pas de télévision pour vous divertir avec ses bavardages abrutissants. Pas de radio pour vous distraire avec une chanson entraînante. Pas de smartphone pour capter votre attention avec un nouveau texto intéressant. Vous flottez dans le vide, privé de sensations. Vous fredonnez simplement pour vous donner quelque chose à entendre. Vous comptez de deux en deux, puis de trois en trois, de cinq en cinq, pour vous occuper l'esprit. Vous vous rongez le bout des doigts pour éprouver une sensation tactile, mais tout ça ne peut guère tuer qu'une heure ou deux par jour. Vous dormez. Trop. Vous ne le faites pas exprès. Vous savez que ce n'est sans doute pas souhaitable. Mieux vaudrait rester sur le qui-vive. Mais vous êtes fatigué, faible, et surtout, vous vous ennuyez. À en mourir. Le sommeil devient votre seul refuge. Je me racontais des histoires. Des livres pour enfants lus à l'école. Des histoires de la Bible entendues à l'église. Au début, je les murmurais. Mais j'avais la bouche tellement sèche que les mots restaient coincés dans ma gorge. Alors, au bout d'un moment, je me suis projeté ces histoires comme des films dans ma tête. Pas des fantasmes où on venait me sauver, ni des images de ma famille et de mes amis. Ça m'aurait fait trop mal. Juste des fables, des légendes, des contes de fées. N'importe quoi qui se terminait bien et qui m'aidait à passer le temps dans ma tête. Mais le plus souvent, ces histoires me rendormaient. Alors je flottais dans un demi-sommeil, de plus en plus désorienté, jusqu'à ce qu'enfin des bruits de pas résonnent dans les escaliers. Le grincement d'une porte en face de moi. Le cliquetis du cadenas tout proche, douce musique à mon oreille. Et enfin, le couvercle en bois était soulevé. Il apparaissait. Et je revivais, sauvée de mon ennui par celui qui m'avait mise là. Parle-moi de ton père, m'a-t-il un jour demandé. Vautré sur le canapé en sous-vêtements sales, il prenait alternativement une bouffée de cigarette et de longues goulées de bière. J'étais nue, assise par terre où, d'une séance à l'autre, j'avais le droit de rester de plus en plus longtemps. Évidemment, la caisse restait bien en évidence. J'y jetais de temps en temps des coups d'œil furtifs, comme on regarde un masque effrayant ou un serpent enroulé sur lui-même. L'objet de ma terreur abjecte, qui pourtant, vu de l'extérieur, n'était rien d'autre qu'un vulgaire cercueil en bois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop occupée à passer mes doigts dans la moquette couleur merde, qui, chose étonnante, comportait non pas une, mais plusieurs nuances. Il m'a donné un coup de pied dans l'épaule pour attirer mon attention. « Parle-moi de ton père.
Pourquoi ?»«
Pourquoi ?»« Comment ça, pourquoi ?»« Je te pose une question, tu réponds. » Nouveau coup de pied. Cette fois dans la tête. Ses ongles de pied épais et jaunes étaient longs et irréguliers. L'un d'eux m'a ouvert la joue. Je ne me suis pas écartée. À ce stade, je savais que c'était inutile. j'ai continué à contempler la moquette. Tous ces fils de couleurs différents qui, tissés ensemble, se fondaient en une seule. Qui l'eût cru? Je me suis demandé si c'était difficile de fabriquer une moquette, et si je pourrais en arracher suffisamment de mèches pour m'étouffer avec. Je ne me souviens pas de lui, ai-je fini par répondre.
Quand est-ce qu'il est mort?
J'étais bébé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Un accident. Sa voiture a fait des tonneaux.
Il s'appelait comment?
J'ai enfoncé ce qui me restait d'ongles plus profondément dans la moquette. Sous mes doigts, je sentais de la poussière, de la terre, des gravillons. Les fibres étaient courtes. Trop courtes, à vrai dire, pour se tuer avec. Dommage. Et cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de les toucher. En matière de divertissement, cette moquette marronnasse était ce que la pièce avait de mieux à offrir. Je ne savais toujours pas où j'étais. Dans un sous-sol, j'imaginais, parce que les seules fenêtres étaient en hauteur et qu'à l'oreille, j'avais toujours l'impression que quelqu'un descendait des escaliers juste avant qu'il ne déboule dans la pièce. Il me semblait qu'il n'y avait pas de cave en Floride. Ou alors pas beaucoup. Est-ce que ça voulait dire que je n'y étais plus? Il y avait des caves dans le Maine. Peut-être qu'il m'y avait ramené. J'étais à deux pas de chez ma mère. Si j'arrivais à réunir suffisamment de force, d'énergie et de chance pour sortir par une de ces fenêtres hautes, je n'aurais plus qu'à rentrer à la ferme à pied. Et voilà, je serai chez moi. Il m'a redonné un coup de pied. Vous avez un père? Lui ai-je demandé.
Bien sûr.
Vous vous souvenez de son nom?
Non, j'étais trop occupée à l'appeler connard pour apprendre son vrai prénom. Mais il était routier, comme moi.
Vous êtes routier? Je n'ai pas pu m'empêcher de lever des yeux étonnés. La découverte d'une information personnelle avait enfin détourné mon attention du sol immonde. Surprenant mon expression de stupeur, il s'est mis à rigoler.
Ben quoi? Qu'est-ce que tu croyais que je faisais de mon temps libre? Il faut bien bosser pour se payer un petit nid d'amour.
Est-ce qu'on est encore en Floride? Est-ce que c'est encore les vacances de Pâques? Après un nouveau rire, il a pris une autre gorgée de bière.
Il va bientôt falloir que je décolle,
m'a-t-il informé sur un ton badin.
Une grosse mission ce coup-ci. Il se pourrait que je reste absent une semaine.
Il me regardait d'un air calculateur, mais je n'y ai pas prêté attention. Mon sang s'était glacé dans mes veines. Une semaine, 7 longues journées. Seul dans la caisse, mon cerveau cessa de fonctionner. Mes bouts de doigts ensanglantés s'enfoncèrent à en avoir mal dans la moquette. Une semaine.
Molly, a-t-il dit.
Il ne fumait plus. La cigarette rougeoyante pendait mollement entre ses doigts et il me regardait.
Quoi? Tu t'appelles Molly. Comment tu t'appelles?
J'aurais voulu répondre, mais franchement, je ne comprenais pas. Tous mes muscles. Tous mes os me faisaient mal. J'aurais voulu fuir cette douleur dans le sommeil. Mais je ne pouvais pas dormir. Parce qu'il était là et que j'étais hors de la caisse. Que la moquette comprenait une demi-douzaine de teintes de brun différentes et que sa contemplation était l'expérience la plus excitante qu'il me serait donné de vivre. Mieux qu'un film, un jeu vidéo ou des textos. La sensation de la moquette crasseuse sous mes doigts. Un vrai parc d'attractions.
« Comment tu t'appelles ? »
a-t-il répété d'une voix autoritaire.
« Ah, Molly ? » ?»«
Pas sur ce ton. C'est une réponse, pas une question. Allez, merde, comment tu t'appelles ?»«
Molly. » J'avais répondu avec plus de conviction, me prenant au jeu. Alors comme ça, il avait envie de m'appeler Molly. Pourquoi pas ? Franchement, ce n'était pas ce qui m'était arrivé de pire.
« Ok. Et comment s'appelle ton père ?»
J'ai hésité, et l'espace d'un instant. Un dimanche après-midi, je porte ma plus belle robe. Je suis devant la tombe de mon père et je tiens la main de ma mère qui pleure en silence, pendant que mon frère se tient, stoïque, de l'autre côté. « Il vous aimait, mes chéris », disait ma mère, ses doigts serrés sur les miens. Il serait tellement fier. Et voilà que je ne pouvais plus dire son nom. Je pouvais le revoir gravé sur la stèle en granit noir, mais je ne pouvais pas y renoncer. Mon père n'était qu'un personnage de légende, un mythe que m'avait raconté ma mère. Mais il était à moi,
et il me restait si peu de choses. Le type m'a redonné un coup, dans la nuque. J'ai murmuré « Edgar ». En réaction, il m'a redonné un coup, plus fort, dans l'oreille. « Menteuse !»«
Espèce d'abruti !»
Il me menaçait de sa cigarette. J'en ai regardé le bout luisant avec inquiétude. Je savais combien ça faisait souffrir.
« Le nom de ton père, je plaisante pas !»«
Edgar ?» ai-je répété tout bas.
« Sale menteuse »
a-t-il rugi en se levant du canapé.
« Son nom ! Son nom ! Son nom, tu vas me le donner, connasse !»«
Molly ! Molly ! Molly !» ai-je essayé. Il m'a frappé des deux côtés de la tête pendant que j'étais recroquevillée, le visage enfoui dans la moquette. Je me suis dit, éperdue, à moitié folle, que je devrais arracher un petit paquet de ces fils marrons, les coincer entre mes doigts et tourner. Je pourrais les plaquer derrière mes oreilles, les emporter avec moi dans la caisse. Oh, quelles belles heures de distraction j'aurais devant moi.
« Donne-moi son putain de nom !» gueulait toujours l'autre. « Dernière chance, ma fille. Ou alors je me casse et tu ne me revois plus jamais. Tu ne revois plus jamais personne, d'ailleurs. Tu as disparu. Tu n'as pas encore pigé. Tu n'es qu'une idiote, ivre, qui a disparu pendant les vacances de Pâques. Tu crois que quelqu'un sait où tu es? Tu crois que quelqu'un en a quelque chose à foutre? »
Ma mère, j'ai pensé, mais je n'ai rien dit. J'ai gardé ma mère pour moi, comme le nom de mon père, comme le visage de mon frère.
« Je te recolle dans cette caisse !» menaçait-il à présent. « Je referme le couvercle et ce sera fini. Tu crèveras là-dedans. Tu te décomposeras. Un truc de plus qui schlinguera dans cette pièce. Personne n'en saura jamais rien. Ta famille ne te reverra jamais. On n'identifiera même pas ton corps. »
Je pleurais. Il m'a frappé plus fort. Mais ce n'était pas les coups qui me démolissaient. C'était l'idée qu'il m'enferme dans la caisse et s'en aille. L'idée de mourir toute seule dans un cercueil. Comme mon père, qui s'était décomposé sous terre. Quand j'étais petite, je pensais que mon père pouvait tout voir. Comme le Père Noël, ou Dieu, j'imagine. Mon père n'était pas un vrai père, mais un fantôme omniscient. Et je le cherchais dans les taches de soleil des sous-bois, dans la pénombre de la forêt profonde. « Papa !» je murmurais. Et toujours, 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 je savais qu'il était là. Parce que, d'après ma mère, mon père avait toujours aimé la forêt. Mais là où je ne pouvais pas le trouver, c'était dans le silence d'une caisse en forme de cercueil. « Ernesto !» j'ai soufflé. Mais l'autre était maintenant trop occupé à me rouer de coups pour m'entendre. Je me suis encore recroquevillée sur la moquette marronasse.
« Edgar !»
j'ai lancé d'un seul coup.
« Evan, Ernesto, Ellie, Earl !»
Je les inventais en rafale, désespérés. Un nouveau jeu pour passer le temps. Les prénoms qui commencent par « E ». Je répétais ces noms en boucle, parce que la moquette était composée d'un nombre fini de fils, et moi aussi. Je ne pouvais plus me permettre de renoncer à quoi que ce soit. Il restait de moi si peu de choses désormais, et le prénom de mon père en faisait partie. Une stèle de granit soigneusement polie, plantée dans le sol. Un petit souvenir, mais précieux. Pour finir, il s'est épuisé. Il a arrêté de me battre et s'est laissé tomber par terre. Allongé, à côté de moi, il était hors d'haleine après cette séance de sport. Nous sommes restés côte à côte en silence.
« Sacrément dommage », a-t-il dit.
Je n'ai rien répondu.
Je veux dire, vu que j'avais l'intention d'être gentil et tout, faut voir, putain, j'allais t'emmener avec moi.
Je n'ai pas pu me retenir. J'ai réagi. J'ai fait un petit mouvement sur la moquette dégoûtante.
Une semaine dans un poids lourd, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Bon, c'est sûr qu'il faudrait que j'emporte la caisse, vu que ce serait ta première sortie et tout. Mais quand même, tu serais sur la route. Je pourrais peut-être te laisser sortir le soir. Tu vois, plutôt que d'être enfermée ici toute seule pendant 7 jours. Peut-être même 8, 9, 10 jours. On ne sait jamais le temps que prend une livraison. Faut bien aller au bout de la mission.
Et l'eau? Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. 7 jours de solitude était déjà une perspective assez terrifiante. Mais 10 jours sans eau? Je n'avais jamais bien suivi mes cours de sciences, mais j'étais relativement certaine que personne ne pouvait survivre aussi longtemps.
« Raison de plus pour venir avec moi », a-t-il souligné. « Raison de plus pour me donner ce prénom. »
J'ai finalement levé la tête. Je l'ai regardé. Son visage dur, ses joues mal rasées, ses dents de travers tachées par le tabac. Il était répugnant et ignoble. Il était puissant et divin, plus encore qu'un fantôme de peur qui errait dans les sous-bois. Et j'ai su, tout comme lui-même le savait certainement depuis le début, ce que j'allais dire.
Everett, Everett Robert Dane. Il m'a souri.
Alors, c'était si dur que ça?
Je n'ai rien répondu. Il s'est relevé et s'est mis à fouiller dans le bazar de la table basse.
Alors, on va écrire un petit mot, hein? Si tu te sauves avec moi, tu devrais au moins prévenir ta mère. Pas vrai?